22h, belle soirée à vous à l'écoute d'Europe 1. Tout de suite, le journal Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Il a été mis en examen ce soir pour 17 nouveaux cas suspects. Parmi eux, 7 patients qui n'ont pas survécu. Le dossier du docteur Péchier s'alourdit. L'anesthésiste de Besançon était peut-être un empoisonneur en série. Le procès Balkany de la prison requise contre le couple. 4 ans ferme pour lui, 2 pour elle et un réquisitoire implacable. 80 km/h, Édouard Philippe lève le pied. Il est prêt à laisser les départements choisir la vitesse au cas par cas. Quelle alternative au glyphosate ? Comment aider les agriculteurs à sortir des herbicides chimiques ? Des producteurs de betteraves de la Somme découvrent en ce moment des méthodes alternatives. Le foot français vend debout contre le projet de réforme de la Ligue des Champions, une ligue qui serait quasiment fermée, réservée aux clubs les plus riches. On entendra le coup de gueule du président de l'AS Saint-Etienne, Bernard Caillazo. Et puis on ira à Cannes, bien sûr, avec Mathieu Charrier découvrir les films du jour. Côté météo, la journée de demain sera beaucoup plus nuageuse et même pluvieuse sur de nombreuses régions, en particulier au sud. Pluie qui pourrait être orageuse. Le nord profitera encore un peu du soleil en attendant les averses en soirée. Et sachez d'ores et déjà que le week-end s'annonce perturbé. Prévision complète de Valérie Darmon à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir le vice-président de OnePlus France, Akis Evangelidis. C'est une marque chinoise de téléphone dont on parle beaucoup en ce moment et qui vient de sortir son tout dernier modèle.
Europe 1.
L'anesthésiste de Besançon a donc été mis en examen ce soir pour 17 nouveaux cas d'empoisonnement présumés, dont 7 mortels. Le docteur Frédéric Péchier passera la nuit en prison. On rappelle qu'il avait déjà été mis en examen pour 7 cas suspects. Les éléments à charge se sont donc accumulés, Arthur Elmbaché.
Et si on additionne tous les cas, on arrive donc ce soir à 24 empoisonnements reprochés au docteur Péchier. Le dénominateur commun de tous ces incidents survenus dans les cliniques bisontines, c'est ce que nous a dit le procureur Manteau, qui a détaillé toutes les charges qui pèsent sur l'anesthésiste.
Il est le seul anesthésiste sur la période étudiée, je dis bien le seul, à avoir été présent le jour de l'ensemble des événements indésirables graves suspects, ou en tout cas pour les opérations du lundi, avoir été présent le vendredi en fin de journée à la clinique, jour où les chariots d'anesthésie sont préparés pour le premier jour de la semaine suivante. Nous avons affaire à un professionnel de santé particulièrement habile, qui a agi lorsque personne ne se trouvait dans les salles d'anesthésie, qui a su varier dans le temps la nature des poisons administrés pour ne pas éveiller les soupçons.
Le procureur qui parle d'un contexte de conflit aigu entre Frédéric Péchier et ses collègues de la clinique, qui rappelle qu'avant son arrivée et depuis qu'il n'exerce plus, il n'y a pas eu d'autres événements indésirables, graves, inexpliqués, qui rappelle aussi le mode opératoire, la pollution de poches de perfusion avec du potassium ou de l'anesthésique local. Le procureur qui nous a expliqué comment, partant au départ de 66 nouveaux cas suspects, les enquêteurs ont fait le tri pour arriver à 17, dont 7 mortels. Donc avec les premiers cas, on arrive à 24 empoisonnements, dont 9 mortels. Les nouvelles victimes, si on peut dire, sont âgées de 4 à 80 ans.
Merci Arthur Elmbaché. À Besançon, Arthur, vous avez recueilli ce soir la réaction de l'avocat du docteur Péchier, maître Randall Schwerdorfer, à l'issue de ces nouvelles mises en examen.
Nous ne sommes pas d'accord avec les conclusions de Monsieur le procureur de la République. Nous vous disons que ce que vous a livré Monsieur le procureur de la République ne sont pas forcément toujours des éléments d'information, mais ce sont des éléments qui lui permettent avant tout d'essayer de mettre le docteur Péchier dans une position d'accusé plus sérieuse que la réalité de ce que le dossier ne le permet. En conséquence de quoi, nous vous le disons avec force, le docteur Péchier conteste l'intégralité des faits reprochés. C'est un dossier d'interprétation et je mets au défi quiconque dans ce dossier, nous mettons au défi quiconque dans ce dossier de nous apporter une preuve évidente de l'implication du docteur Péchier dans un quelconque empoisonnement.
L'avocat de l'anesthésiste mis en examen donc pour 17 nouveaux cas suspects d'empoisonnement. L'actualité ce soir, c'est aussi le lourd réquisitoire contre les époux Balkany dans le premier volet de leur procès, celui concernant les fraudes fiscales. 4 ans ferme avec mandat de dépôt requis contre le maire de Levallois-Perret et 4 ans dont 2 fermes contre son épouse et première adjointe Isabelle, ainsi que 10 ans d'inéligibilité pour tous les deux. Salomé Legrand, vous étiez cet après-midi au tribunal correctionnel de Paris. Le procureur a qualifié Patrick Balkany de grand fraudeur fiscal.
Et il a commencé par rappeler que les Balkany, en déclarant chacun de leur côté employé un personnel pléthorique, ont même réussi à se faire rembourser des impôts. 7 100 euros en une poignée d'années, en plus des déclarations sous-estimées et du patrimoine dissimulé. Il a d'ailleurs ironisé à ce sujet sur le bungalow de Saint-Martin, tellement modeste et anodin qu'il se louait 10 000 dollars la semaine et évoquait un océan d'argent liquide. Le magistrat a aussi balayé l'argument avancé hier par Patrick Balkany d'un héritage en espèces reçu de son père, mort bien avant que n'existent les billets de 500 euros. Vous avez eu une attitude intolérable, a dit le magistrat en soulignant que Jérôme Cahuzac, lui, avait payé sa dette en arrivant au tribunal quand Patrick Balkany conteste encore les montants. Son avocat, maître Dupont-Moretti, dans une plaidoirie express de moins de 30 minutes, a rappelé les taux de fraudeurs par profession en France avant de fustiger une justice poujadiste pour faire plaisir au bon peuple.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1 a écouté la réaction de Patrick Balkany à l'issue de ce réquisitoire. Alors que le procureur a dénoncé un acharnement à frauder, lui y voit une décision politique.
La manière dont il a présenté cette affaire, la manière dont il nous a présenté, mon épouse et moi, me paraît extrêmement excessif. Je m'y attendais parce qu'on sent bien que depuis 2012, on cherche à nuire. C'est un procès politique. Vous avez entendu le procureur. Il voudrait tout prendre, y compris la maison de nos enfants dont nous avons fait donation il y a plus de 20 ans.
Patrick Balkany au micro de Salomé Legrand sur ce volet fraude fiscale. Le tribunal correctionnel de Paris rendra son jugement le 13 septembre et le procès va désormais se poursuivre à partir de lundi prochain sur le volet, cette fois blanchiment de fraude fiscale et corruption. La police des polices a enquêté sur l'affaire de ces lycéens de Mantes-la-Jolie. La vidéo de la scène qui les montrait agenouillés et mains dans le dos ou sur la tête avait suscité beaucoup de polémiques. C'était en décembre dernier. L'IGPN conclut qu'il n'y a pas eu de faute de la part des policiers. L'enquête judiciaire, elle, se poursuit avec les auditions des lycéens qui ont débuté cette semaine. La mort de deux pêcheurs plaisanciers aujourd'hui. Un troisième est blessé après le chavirage de leur bateau au large de Talmont-Saint-Hilaire en Vendée. Ces pêcheurs voulaient remonter un casier lorsque la chaîne s'est retrouvée coincée dans l'hélice. Ça a entraîné le renversement du bateau. L'un d'eux seulement réussit à regagner la côte à la nage. Le Quai d'Orsay va réunir voyagistes et plateformes de réservation en ligne suite à l'enlèvement des deux touristes au Bénin qui se trouvaient dans une zone déconseillée. Leur libération qui a coûté la vie à deux militaires a fait naître une polémique sur la prise de risque dans certaines zones du monde, d'autant que ces deux touristes voyageaient seuls sans tour opérateur. C'est la fin d'une cavale de 16 ans, celle de l'ancien leader de l'organisation séparatiste basque ETA, Josu Ternera, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Elle a pris fin, cette cavale, aujourd'hui en Haute-Savoie, où il a été interpellé devant un hôpital où il se rendait pour un rendez-vous médical. Il serait à l'origine de plusieurs attentats meurtriers. L'organisation ETA qui a été dissoute l'an dernier. Dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1 et la marche arrière d'Edouard Philippe sur les 80 km/h. A tout de suite.
Europe 1. Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h08, merci d'écouter Europe 1. Les 80 km/h sur les routes secondaires. Édouard Philippe lâche donc du lest, même si le Premier ministre se dit toujours favorable à cette mesure. Il semble prêt à quelques aménagements avec des dérogations possibles, Aurélie Herbemont.
Et oui, ce sont les présidents des conseils départementaux qui auront maintenant la responsabilité de laisser les routes à 80 km/h ou de les repasser à 90 km/h. Alors attention, la règle reste bien 80 km/h, mais il y aura des dérogations possibles décidées localement sur certains tronçons en fonction de l'accidentologie des routes, car Édouard Philippe fixe des règles. Il ne faut pas que ce compromis se paye par des morts en plus, avertit son entourage. Bref, du pragmatisme oui, du laxisme non, car cette mesure de sécurité routière, vous le disiez, le Premier ministre y reste attaché, c'est lui qui l'a porté, malgré la grogne, y compris parfois dans la majorité. Mais ces 80 km/h ont contribué à alimenter la colère des Gilets jaunes et dès le début du grand débat, Emmanuel Macron avait ouvert la voie à ces aménagements pour arriver à quelque chose qui soit mieux accepté et plus intelligent. Voilà donc une illustration du changement de méthode voulu par le chef de l'État et appliqué par le Premier ministre. Plus de concertation et un partage des responsabilités aux élus locaux d'assumer la limitation de vitesse. On n'aura plus droit au procès de la décision venue de Paris, glisse un proche d'Edouard Philippe.
Aurélien Beaumont du service politique d'Europe 1, ce retour possible aux 90 km/h sur les routes secondaires est salué notamment par le président du conseil départemental de Côte d'Or, François Sauvadet, qui était l'invité de Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Ce n'est pas une victoire, c'est une décision de bon sens. Enfin, c'était incompréhensible que depuis Paris, on détermine que sur tout le réseau départemental, on avait passé à 80 km/h avec des situations complètement invraisemblables. Regardez, entre Dijon et Beaune, 38 km, 42 changements de vitesse. 42 changements de vitesse. Vu de Paris, la voiture, c'est devenu l'ennemi public numéro un. Mais vu de la province, vu de Marigny-le-Caouet, ben, quand on n'a pas sa voiture, on ne peut pas circuler, on ne peut pas aller dans les moindres services, on ne peut pas emmener ses enfants à l'école, on ne peut pas aller faire ses courses. La voiture, on en a besoin.
Du coup, vous héritez, là, François Sauvadet, d'une responsabilité dont vous ne vouliez pas.
Mais ben, attendez, la responsabilité, non seulement on la revendique, mais on l'assume.
François Sauvadet, le président du conseil départemental de Côte d'Or, avec Raphaël Duchemin. Le taux de chômage au plus bas depuis 10 ans en France, en recul de 0,1 point à 8,7%. Le conseil constitutionnel valide ce soir la grande majorité des 221 articles de la loi Pacte pour la croissance des entreprises, y compris les privatisations du groupe ADP et de la Française des Jeux. Les sages ont rejeté le principal argument des opposants à la privatisation d'ADP en estimant que le gestionnaire des aéroports de Paris n'est pas en situation de monopole de fait, car il existe sur le territoire français d'autres aérodromes d'intérêt national ou international. Comment aider les agriculteurs à sortir des herbicides chimiques, étant donné l'objectif d'une diminution de 50% d'ici à 2025 de l'usage des produits phytosanitaires? Cet objectif a été fixé par les autorités et les exploitants doivent donc se tourner vers d'autres techniques, notamment les méthodes de désherbage mécanique. Certaines d'entre elles sont présentées depuis hier aux producteurs de betteraves à Berne. En Santerre, dans la Somme, reportage de Rémi Botsaron.
Autour du champ de betteraves divisé en parcelles, les démonstrateurs s'activent pour expliquer les différentes techniques de désherbage mécanique utilisées. Face à eux, les agriculteurs les écoutent, attentifs, sous les yeux de l'organisateur Vincent Lodina.
C'est de la pédagogie, montrer aux agriculteurs quelles sont les techniques actuellement disponibles, qui puissent la juger, c'est pour ça qu'on fait de la démonstration en champ, donc ils peuvent le voir, de se dire tiens, ça je peux faire ça chez moi, donc je vais me l'assimiler.
Et pour faciliter encore la conversion des agriculteurs, les machines nécessaires sont elles aussi présentées juste à côté, mais passer le pas n'est pas si simple pour beaucoup d'exploitants comme Thierry qui n'utilise encore que des solutions chimiques.
Ça a l'air de pouvoir fonctionner quoi, mais il faut qu'on prenne la main sur ces nouvelles techniques. Il faut nous laisser du temps pour s'adapter et puis il y a un investissement derrière, je veux dire, le matériel il coûte cher, donc aujourd'hui on sait pas où on va du tout, quoi.
Un discours qui n'échappe pas à un observateur particulier, c'est un représentant des fabricants d'herbicides venu lui aussi discuter, dit-il. Quand on lui demande si ces techniques mécaniques pourraient un jour remplacer les produits chimiques, il répond dans un sourire « Je ne vivrai pas assez vieux pour le voir ».
Le reportage de Rémi Botsaron à Berny en Santerre, dans la Somme. À 10 jours des élections européennes, l'action d'une cinquantaine d'agriculteurs à l'initiative de la Confédération Paysanne. Ils ont bloqué des camions aujourd'hui au péage du Boulou, c'est dans les Pyrénées-Orientales. À la frontière avec l'Espagne. Ils réclament un prix minimum pour les fruits et légumes, comme l'explique David Loupiac, qui produit des fruits en Ardèche.
Ce qu'on veut, c'est alerter les pouvoirs publics, surtout dans ces temps où il y a des élections qui concernent l'Europe, pour dire qu'un certain nombre de fruits et de légumes rentrent sur le territoire français à des coûts qui ne nous permettent pas de vivre. Et nous, ce qu'on réclame, on propose une mesure des prix minimums d'entrée. En abricot, le prix minimum, ça va être 1,80€. Si, à un moment donné, il rentre de l'abricot à 1€ d'Espagne ou d'ailleurs, il ne pourra pas rentrer. Pour ne pas nous faire concurrence, ça ne bloque pas le commerce international, ça fait en sorte qu'il soit plus juste des deux côtés d'une frontière.
Un producteur de fruits ardéchois au micro-européen de Benjamin Péter.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Et allez, on part tout de suite à Cannes avec deux films en compétition aujourd'hui. Mathieu Charrier, une novice de la croisette et un habitué.
Deux générations pour deux films puissants présentés ce soir. Ken Loach d'abord, le doyen, qui raconte dans Sorry We Missed You l'ubérisation de notre société à travers le quotidien très précaire d'un livreur indépendant. Ça va faire exploser la cellule familiale. Franchement, on met du temps à se remettre de ce film, que je trouve même meilleur que moi, Daniel Blake, qui lui a valu la Palme d'Or il y a 3 ans. La projection officielle de Sorry We Missed You vient de commencer. Et puis en fin d'après-midi, les festivaliers ont découvert le long-métrage de Mati Diop, 26 ans, qui filme, vous savez, ces villes africaines au bord de l'océan, dont beaucoup beaucoup de jeunes partent pour mourir en mer en tentant de traverser vers l'Europe. Sauf que là, l'esprit de ces morts reviennent hanter les vivants. Je vais vous dire, c'est fin et ça dit beaucoup de choses sur les migrants, thème on ne peut plus d'actualité. Le film s'appelle Atlantique. Demain, place ici à Jessica Hausner et surtout Pedro Almodovar, très attendu sur la croisette.
Mathieu Charrier, envoyé spécial d'Europe 1 à Cannes. En foot, le projet de réforme de la Ligue des Champions à partir de 2024 continue à faire des vagues. Ce projet aboutirait à une Ligue des Champions quasiment réservée aux plus grands clubs, avec 24 équipes sur 32 automatiquement reconduites d'une saison sur l'autre et seulement 4 places accessibles via les compétitions nationales. En France, seul le PSG s'est montré favorable à cette réforme. La Ligue et la FFF redoutent que ce projet enlève tout enjeu aux compétitions nationales. Écoutez le coup de gueule ce soir de Bernard Caillazo. Interview exclusive du président du syndicat de clubs de Première Ligue, également président de la Saint-Etienne, au micro de Jean-François Pérez.
Le projet de réforme est un projet extrêmement dangereux pour le football français. Le supporter, il va avoir l'espérance de voir son club, en cas de bonne performance dans les championnats nationaux, pouvoir accéder au Graal, c'est-à-dire à la compétition suprême européenne. Si on lui enlève cette espérance, ça veut dire qu'on ne le respecte pas. Et ne pas respecter les supporters, ne pas respecter les villes françaises, quelles qu'elles soient d'ailleurs, de petite ou de moyenne taille, qui peuvent avoir des équipes surperformantes, c'est vraiment tout à fait dommageable pour ceux qui aiment le sport, ceux qui aiment notre football.
Si jamais la réforme va au bout, le foot français est prêt à boycotter les futures compétitions européennes.
Je ne sais pas ce qui se passera dans les détails, mais il y aura des réactions extrêmement fortes et on irait vers une sorte, je dirais, de scission qui... Personne ne serait gagnant d'un combat qui serait un combat mortel. Les clubs partout en Europe se battent pourquoi ? Pour leur survie. Si ils n'ont aucune chance de vivre, quand vous mettez en jeu la vie d'un individu, ils résistent, ils descendent dans la rue et ils se révoltent. Et c'est comme ça que les révoltes et les révolutions arrivent. J'espère qu'on n'en viendra pas là et que la raison l'emportera et qu'on aura un projet respectueux du football et de ses supporters.
Bernard Caillazo avec Jean-François Pérez. La météo, Valérie Darmon, et demain, comme vous nous l'annoncez d'ailleurs depuis le début de cette semaine, demain le ciel vire au gris.
Et oui, la perturbation qui est en train d'arriver sur les Pyrénées continuera sa progression sur toute la moitié sud au fil de la journée de vendredi. Et demain matin, les pluies faibles à modérées vont s'étendre de l'Aquitaine jusqu'au pourtour du golfe du Lion et ensuite à toute la région Rhône-Alpes et à toutes les régions méditerranéennes, sauf en Corse. Et elles seront d'ailleurs assez soutenues du côté du Pays Basque, de la Montagne Noire et des Cévennes, et elles vont virer même à l'orage. La moitié nord de la France va rester en marge de ce temps perturbé, mais le ciel sera tout de même assez voilé et puis de plus en plus chargé, là aussi au fil des heures, pour voir l'arrivée d'averses en fin de journée. Les minimales oscilleront entre 3 à Épinal et 12 degrés à Nice et les maximales entre 12 à Rodez et 22 à Strasbourg.
La météo signée Valérie Darmon.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com, juste avant l'invité éco d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le vice-président de OnePlus France. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h19, comme tous les soirs sur Europe 1, on s'intéresse à la bourse avec vous, Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Troisième séance dans le vert pour les marchés à Wall Street.
Oui, avec encore de fortes hausses pour les indices. Le Dow Jones avance de 0,84%, 25 863 points. Le Nasdaq gagne 0,97%, 7 898 points. C'est donc confirmé, les investisseurs retrouvent le goût du risque après une séance calamiteuse lundi. Ils saluent ce soir des résultats d'entreprise solide. Walmart, le géant américain de la grande distribution, a réalisé des profits plus importants que prévu au premier trimestre. Le titre s'adjuge 1,4%. C'est bien aussi pour Cisco, l'entreprise informatique avec de bonnes performances dans la cybersécurité. Cisco grimpe de 6,7%. Ça monte également pour Uber, le groupe de VTC, plus 4%. Troisième séance de hausse pour Uber après ses premiers pas en bourse ratés la semaine dernière. Le pétrole poursuit son ascension avec un WTI à 72,62 $, en hausse de 1,4%. Et puis l'euro recule de 0,3% et s'échange contre 1,1170 $.
Et encore une belle séance pour le marché parisien.
Oui, c'est la troisième séance de hausse, comme à Wall Street pour le CAC 40, qui gagne encore 1,37%, 5448 points. Bouygues gagne 4% après la publication des chiffres du premier trimestre. Le groupe profite notamment de la bonne santé de son activité télécom. volumes. CNP Assurance aussi monte, plus 4% après les comptes. Séance nettement plus compliquée pour les valeurs automobiles, des valeurs qui ont été recherchées hier grâce aux espoirs d'apaisement dans la guerre commerciale. Mais ce soir, Valeo retombe déjà de 2,7%, à Faurecia moins 2,3%.
Et séance compliquée aussi, Claire, pour les laboratoires Boiron.
Oui, le titre a été suspendu. Ça veut dire que la cotation a été stoppée à la Bourse de Paris. Il a terminé sur une chute de 3,9%. Boiron a dénoncé une fuite de la Haute Autorité de Santé dans un média. La Haute Autorité pourrait recommander de ne plus rembourser les granules homéopathiques. Alors ce serait juste un avis, mais ça pourrait être une très mauvaise nouvelle pour Boiron, qui est le numéro un mondial de l'homéopathie. Et d'ailleurs, le titre souffre en Bourse. Depuis le début de l'année, il a perdu 12%. Et puis l'action Ubisoft dégringole de près de 13%. Déception pour l'éditeur de jeux vidéo après la publication de revenus annuels inférieurs aux attentes. Les marchés européens ont clôturé en forte hausse, plus 1,7 pour Francfort, plus 0,8 pour Londres, Bruxelles, Milan et Madrid, plus 1,4, Amsterdam plus 1,1 et le CAC 40 gagne 1,4%, 5448 points.
Eh bien merci pour ce tour d'horizon très complet. Claire Lemaître de Boursier.com.
L'invité éco avec laposte.fr/pro pour envoyer des lettres recommandées en ligne avec la même valeur juridique qu'un recommandé classique.
Emmanuel Dutheil, vous recevez ce soir le vice-président de OnePlus France.
Bonsoir, Akis Evangelidis.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le vice-président pour la France de OnePlus. Alors, ce n'est pas encore la marque de téléphone la plus connue, mais ce n'est pas étonnant puisque c'est l'une des plus récentes. Vous avez été créé en 2013. Vous êtes une marque chinoise, mais avec d'énormes ambitions. Vous, ce qui est intéressant, c'est le credo original sur lequel vous êtes positionné dès le début. Faire du haut de gamme en termes de technologie, mais du haut de gamme, allez, on va dire quasi accessible quand on parle de téléphone haut de gamme, en tout cas, puisque pour le tout dernier que vous sortez, on est aux alentours de 700 euros. Donc déjà, sur ce positionnement, pourquoi vous êtes positionné là-dessus ?
À la base, nos cofondateurs sont tous deux des ingénieurs et c'était tout simplement pas satisfait sur ce qu'ils allaient retrouver sur des smartphones Android. À l'époque, les smartphones étaient en plastique, donc on n'avait pas vraiment une expérience utilisateur qui correspondait vraiment à leurs attentes. Du coup, eux, ils se sont mis en tête qu'ils voulaient créer une référence dans la téléphonie mobile sur Android.
Et l'idée, c'est d'avoir regardé un peu ce que faisait bien tout le monde, se dire on va faire comme eux et on va essayer de vendre un petit peu moins cher. C'est ça vraiment l'idée ?
OnePlus a commencé avec un forum où on a échangé avec des futurs utilisateurs sur ce qu'ils attendaient eux-mêmes du smartphone. Donc il y a eu 6 mois d'échange avant de sortir le OnePlus One à l'époque. Et ce qui est important, c'est qu'on se concentre sur un seul produit à la fois. Et on fait uniquement du haut de gamme. On est une des seules marques de smartphones à faire uniquement du smartphone. Et on fait uniquement du haut de gamme. Et donc, à l'époque, on avait fait 6 mois d'échange avec ce qui est devenu un petit peu la communauté OnePlus. Et à l'époque, du coup, on est en 2014, où on a sorti le OnePlus One, où on pensait en vendre 10 000 unités. Et le portable, à l'époque, s'est vendu à 1,5 million d'unités.
Très vite, vous avez continué de vendre pas mal de nouveaux téléphones avec une particularité. Jusque-là, vous en sortiez très peu, je crois seulement 2 par an, si je ne dis pas de bêtises. Là, vous avez décidé d'accélérer un tout petit peu avec le tout dernier qui vient de sortir. Donc, c'est le 7, la gamme 7 qui arrive du côté de chez OnePlus. Moi, j'ai été assez étonné. Je ne suis pas obligatoirement un geek à la base. Je suis allé regarder ce qu'on appelle les tutos sur Internet, ceux qui l'ont testé puisqu'il a été présenté avant-hier. J'ai vu plusieurs remarques qui allaient dans le même sens en disant « il fait tout un peu mieux que les autres et il le fait moins cher ». Alors là, vous allez me dire que je vous brosse dans le sens du poil, mais c'est vraiment ce qui est revenu de tous les tutos quasiment que j'ai pu regarder.
Au final, c'est un petit peu ce qui est revenu à travers les 5 dernières années. Et là, au final, à travers ces 5 dernières années, on a aussi beaucoup appris. Donc là, on est arrivé à un point où on est numéro 5 sur le marché premium au niveau mondial. En France, on est numéro 4 pour l'instant. Et au final, on a développé une expertise qui nous a permis de devenir non seulement un challenger au niveau de l'industrie, mais une vraie référence.
Alors, ce dernier téléphone est quand même vendu très cher, environ 700 euros. Malgré tout, c'est beaucoup moins que ses grands concurrents chez Samsung ou bien évidemment chez Apple. De façon extrêmement concrète, vous faites comment pour vendre moins cher que les autres des téléphones qui sont a priori au moins aussi bien que les autres ?
Donc, tout simplement, on en revient à la structure des coûts d'un produit. En sachant que le produit en soi On fait aucun sacrifice entre guillemets quand on en vient vraiment au développement produit. Mais après, là où on a su faire les choses de manière plus intelligente, c'est par rapport à notre distribution. Donc on a commencé uniquement en ligne. Maintenant, on commence à avoir des partenariats exclusifs en France avec Bouygues et Fnac. Et après, notamment, toute la partie marketing.
Est-ce que vous acceptez aussi de faire un petit peu moins de marge que vos concurrents ?
Ça fait partie de notre business model, ce qu'on appelle, vu qu'on a commencé uniquement en ligne. Et voilà, on veut rester fidèle à nos principes. Et du coup, la même marge qu'on a appliquée la première année en étant uniquement disponible sur le net, on essaye également de garder le même niveau de marge, même maintenant où on est disponible dans la distribution et en magasin.
Alors, vous disiez, on est le cinquième dans le monde au niveau des smartphones haut de gamme, donc ça veut dire qu'il y en a quand même un paquet devant vous, quatrième en France. Comment, quand on est aussi dithyrambique, quand on lit les critiques, comment on explique que vous soyez si loin quand même dans le classement ? Parce que cinquième, c'est loin sur le haut de gamme quand même.
Après, je pense qu'on a une approche qui est plus sur le long terme. Au final, à travers 5 dernières années, on s'est vraiment focalisé sur le consommateur final. Là, on peut voir, même quand on lance un produit, où on a 500, 600 personnes qui font la queue pour avoir ce produit. Au final, on est une des seules marques de smartphones qui a vraiment réussi à créer un engouement autour de la marque et à créer une vraie communauté qui répond présent à chaque lancement. Là, on vient d'annoncer du coup le 7 Pro hier à Londres. On avait plus de 1200 personnes, dont la moitié qui étaient des super fans de la marque, qui avaient fait le déplacement, notamment 60 personnes depuis la France. Donc je pense qu'on a vraiment une approche plus long terme. On va vraiment se construire une vraie image de marque sur le marché premium et vraiment continuer à se focaliser sur le produit et l'utilisateur.
Donc ce que vous espérez, c'est qu'à force, le bouche-à-oreille, on en est peut-être le meilleur exemple ce soir, ça puisse porter ses fruits. Vous êtes une marque chinoise, hein, je le disais en introduction. Est-ce que malgré tout, quand on est sur le très haut de gamme, c'est pas compliqué d'être chinois ? Parce que jusqu'à très récemment, on pouvait se dire, une marque chinoise, ça veut dire fabriquer un peu simplement, avec des produits peut-être un petit peu simples. Et du coup, est-ce que ce n'est pas compliqué de se départir de cette image, parfois de mauvaise qualité, d'une marque chinoise ?
Ben, je pense que c'est plus d'actualité, tout simplement. Enfin, la Chine est clairement en train de devenir un leader en termes d'innovation. Donc, je ne pense plus que c'est un frein. Ça l'a été peut-être au tout début, mais après OnePlus, on a commencé direct. Ce n'est pas une marque qui est devenue énorme sur le marché chinois et après que ça a exporté à l'international. C'était toujours une marque vue comme internationale.
Votre grand concurrent, c'est qui, celui que vous voulez détrôner ? C'est Samsung, Apple ou c'est le grand concurrent chinois Huawei ?
On a tendance à dire en interne, notre plus grand concurrent, c'est nous-mêmes. Faut vraiment, au final, on se laisse pas porter par le marché. Je pense que c'est vraiment se fier à ce qui a permis d'en arriver là aujourd'hui, c'est-à-dire uniquement se focaliser sur le produit et sur l'utilisateur. Et après, le reste suit.
Eh ben, merci d'être passé ce soir par les studios d'Europe 1. Akis Evangelidis, qui est donc le vice-président France de OnePlus. Alors moi, je dis OnePlus, vous dites OnePlus, mais on va le franciser, comme ça, ce sera encore plus simple. Un grand merci, en tout cas. On se retrouve, nous, demain, 22h20 sur Europe 1.
Merci à vous, à demain, Emmanuel Duteil.
C'était l'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour envoyer des lettres recommandées en ligne avec la même valeur juridique qu'un recommandé classique.
Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ? À tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Marche arrière, écrit Christophe Bonnefoy dans le journal de la Haute-Marne. C'était dans les tuyaux, voilà que ça se confirme. Vous étiez fâché avec les 80 km/h, et bien revoici les 90. Non, Édouard Philippe n'a pas changé d'avis, mais face à la pression, il refile le bébé. Pardon, il laisse les mains libres au département. Il offre la possibilité de changer à nouveau les règles à ceux qui ne manqueront pas de se voir ensuite reprocher une éventuelle recrudescence de la mortalité sur nos routes. Macron face à la montée du vote sanction, c'est à la une de l'opinion. Le président est monté en première ligne et installe l'idée d'un duel avec l'extrême droite comme en 2017, au risque de pousser ses opposants à un vote utile au profit du Rassemblement national. À propos de ces élections, le journal L'Humanité donne la parole demain à Yann Brossa, la tête de liste communiste qui appelle à convaincre les abstentionnistes. Il est en une de L'Humanité. 100% des banquiers iront voter, dit-il. Ne les laissons pas décider. Grandes écoles, la discrimination positive, titre Le Figaro. Actée par Emmanuel Macron, la suppression de l'ENA pourrait préfigurer une réforme de l'école normale supérieure et de polytechnique. Elle devrait accueillir davantage de boursiers. Et puis évangélique, quand la foi fait la loi, titre pour sa part Libération. Comme en Alabama, où elles ont inspiré un texte anti-IVG, ces églises conservatrices imposent progressivement leurs idées dans de nombreux pays où elles ont acquis une influence inquiétante. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et à 22h31, il est temps de retrouver Sophie Peters pour la Libre Antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle.
À tout à l'heure pour un nouveau point sur l'info.
Merci.